France Inter, le 18-20.
Il y a des histoires, il y a des gens dans l'actualité qui nous accompagnent dans nos compréhensions d'un sujet, qui nous aident à avancer pour nous faire une opinion, qui nous confronte à nos choix et à nos peurs. L'affaire Vincent Lambert est définitivement de celle-là. Nous vivons avec lui depuis des années le débat sur la fin de vie, les lois Leonetti qui deviennent Leonetti Claes. C'est avec lui qu'on apprend très concrètement ce que sont les directives anticipées. C'est avec lui qu'on s'interroge sur la fin des souffrances. Ça veut dire quoi mettre fin à des souffrances? C'est avec lui qu'on se surprend à réfléchir sur le sens qu'on donne à la vie et donc au choix de notre mort. Cette semaine qui commence par l'arrêt des traitements pour Vincent Lambert sera éprouvante pour tout le monde. On dit beaucoup de choses, on confond beaucoup de choses, on confond les cas, les situations, les mots qui ont tous un sens, acharnement thérapeutique, euthanasie, handicap, état de conscience, tout cela est évidemment très différent et chaque cas est singulier, chaque décision est singulière. Mais ce que nous avons appris collectivement avec Vincent Lambert, c'est que ces questions nous concernent tous, c'est que ce débat en France n'a pas été probablement traité ou expurgé suffisamment, qu'on a tous besoin qu'on nous réexplique ce qui pourrait se passer pour nous, ce qui ne se passera pas pour nous sans notre accord. Il est temps de mettre des mots sereins sur ces questions, c'est ce qu'on va tenter de faire ce soir, et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Aude, bonsoir, c'est vous qui commencez, soyez la bienvenue.
Bonsoir.
Allez-y Aude.
Donc voilà, j'ai souhaité témoigner ce soir, puisque mon père a eu un AVC donc à l'âge de 56 ans, il y a quelques années, et l'équipe médicale alors nous avait proposé de tenter une intervention pour essayer de résorber l'hématome, et suite à cette intervention, il a été plongé donc dans un état post-relationnel, donc c'est un état de conscience minimale. À la suite de ça, nos positionnements dans la famille étaient très différents. Ma mère souhaitait vraiment que l'euthanasie ne soit pas abordée et que ce sujet-là ne soit pas mis sur le tapis, on va dire. Et puis nous, les enfants, étions tellement trouvions tellement difficile d'accompagner la personne qui était avant et qui est tellement différente dans cet état-là. Et nous avions une position très différente. Et voilà, finalement, nous sommes arrivés sur un accord tous ensemble, j'allais dire, et avec l'équipe médicale, qui a été celui du non-acharnement thérapeutique si quoi que ce soit lui arriver, et c'est ce qui s'est passé au final, puisqu'il est parti de lui-même, on va dire.
Comment ça s'est passé, Aude, rapidement, cette discussion dont vous parlez avec vous, la famille, les médecins? Tout ça s'est fait sur un long terme, et long terme, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est des jours? Est-ce que c'est des semaines de discussion? Ça se passe comment, ce que vous racontez?
Ça se passe plutôt sur des années, j'allais dire, puisque l'état dans lequel il s'est retrouvé n'a pas été... Ça a pris plusieurs mois de comprendre en fait ce qui se passait. On parlait d'un coma, puis derrière on a parlé de cet état aussi relationnel, mais au bout de plusieurs mois, j'allais dire plus de 6 mois. Et les discussions après, elles se font sur du très long terme en fait. Il y a plutôt les questions très pratiques qui se posent de où, dans quel service est-ce qu'il est hospitalisé, essayer de le rapprocher au maximum ensuite de notre lieu de résidence, toutes ces questions-là qui sont des questions d'organisation qui sont les premières questions qui vont être résolues. Et puis après, quand le long terme s'installe, là on commence à se poser des questions différentes.
Merci beaucoup, merci Aude vraiment pour ce témoignage qui nous permet vraiment de commencer sur ce débat-là et d'avancer sur le sujet pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Véronique Fournier est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, vous êtes directrice du centre d'études cliniques de l'hôpital Cochin, vous êtes aussi directrice du centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, et Daniel Messager est là avec nous également, bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Spécialiste santé de France Inter. Véronique Fournier, ce que j'entends dans le témoignage d'Aude, et vous allez sûrement pouvoir confirmer que c'est ce qui se passe le plus souvent, c'est que le plus souvent, on arrive à se parler entre la famille, entre le médecin, les services hospitaliers. Très souvent, ça se passe bien. Tous les cas ne sont pas ceux sur lesquels on est aujourd'hui, ceux de Vincent Lambert.
Non, heureusement. Et c'est vraiment cela qu'il faut chercher. C'est absolument à construire une co-décision, à arriver ensemble à trouver le bon chemin.
Là, on sent le temps aussi. Et peut-être que c'est ça aussi l'autre clé, c'est de se dire, on n'est pas obligé de décider maintenant. On n'est pas obligé d'être sûr maintenant, on n'est pas obligé de savoir maintenant ce qu'on veut et surtout ce qui va se passer derrière, par ailleurs, pour, là, en l'occurrence, un monsieur.
Non, très souvent, effectivement, la décision prend du temps. Et comme vous le dites, la temporalité est importante. Mais il faut aussi, probablement, ne pas attendre trop longtemps. Ou en tout cas, faire en sorte que le cheminement soit enclenché. Parce que sinon, on peut rester très longtemps à ne pas prendre de décision.
Qui l'enclenche, cette discussion-là lorsque un monsieur comme le papa de Aude, là, arrive, on est dans cette situation-là, est-ce que c'est le médecin qui doit, au bout d'un certain temps, réunir la famille et dire « voilà ce qui peut se passer maintenant, voilà les choix qui vont peut-être s'offrir à nous ». Est-ce que c'est le médecin qui a cette initiative-là ou pas, le plus souvent ?
Pour Vincent Lambert, c'est le médecin qui l'a eu. Hein, et il l'a eu à cause des témoignages de ses soignants, de son équipe soignante au départ. L'équipe soignante était très mal à l'aise parce qu'elle avait l'impression véritablement d'être maltraitante avec Vincent Lambert au bout de quelques mois. Et donc c'est elle qui s'est exprimée et le médecin a repris la balle au bon. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à réfléchir d'abord en équipe et puis ensuite de ça avec l'épouse de Vincent Lambert. Parfois c'est l'inverse, parfois c'est la famille qui réagit la première ou un proche. Ça dépend. Ça peut être les uns ou les autres. Et ce que dit la loi, c'est que tout le monde peut prendre l'initiative de cette réflexion et de ce qu'on appelle la procédure collégiale. Et qu'ensuite de ça, une fois que quelqu'un l'a prise, il faut suivre. Il faut aller jusqu'au bout de la réflexion et décider pourquoi on fait ou pourquoi on ne fait pas.
Quand la décision est prise, le laps de temps entre la décision et le fait, là, en l'occurrence, si la décision est d'arrêter, en l'occurrence, on parle de sonde alimentaire, mais si la décision est celle-ci, elle se fait combien de temps après que la famille ait donné son accord ? Est-ce que c'est immédiat ou pas, dans la plupart des cas ?
D'abord, elle peut se prendre sans que la famille ait donné son accord. Hein, puisque, on le sait, ça arrive aujourd'hui, et que donc il y a des familles qui contestent ces décisions qui sont prises, et le rôle aujourd'hui du médecin, c'est d'attendre un minimum de temps pour que, la première chose, la famille puisse éventuellement saisir la justice. Hein. C'est ce qui a été le cas dans l'affaire Vincent Lambert, mais c'est le cas dans plusieurs autres affaires, c'est-à-dire que aujourd'hui les dernières jurisprudences impose au médecin de ne pas appliquer la décision immédiatement. De façon à ce que, justement, la famille ait le temps de saisir la justice. Et ait le temps aussi de se préparer. Et ait le temps aussi, éventuellement, d'accepter la décision, même si elle l'a contestée au début. Donc, cette histoire de temps est très importante.
Pardon, allez-y, finissez. Pardonnez-moi.
Non, mais après, effectivement, en général, le médecin ne dit pas « je vais attendre 6 mois ou je vais attendre que vous soyez prêt pour appliquer ma décision ». Il dit, comme il l'a dit dans l'affaire de Vincent Lambert, eh bien, je vous laisse un peu de temps, j'ai pris cette décision, mais je ne l'appliquerai que dans la semaine du 20 mai. Et tout le monde a été au courant 8-10 jours avant.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de cas, même s'ils ne sont pas médiatisés, même s'ils sont moins violents, j'allais dire spectaculaires, au premier sens du terme que celui-ci, est-ce qu'on a une idée du nombre de fois où la justice effectivement est engagée, ou est-ce que c'est finalement très très rare ? Vous citez effectivement de ces moments-là, où parfois la famille conteste, est-ce que c'est finalement assez rare parce qu'on arrive à s'entendre et à se parler avant d'en arriver là, ou est-ce que c'est relativement courant ?
Non, sur le nombre de cas qui sont concernés, c'est extrêmement rare. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on entend parler de ce genre de situation, pas uniquement dans des histoires d'étapes aussi relationnelles, mais par exemple, il y a eu l'histoire de la jeune Inès, à Strasbourg, je crois, ou dans l'Est.
À Nancy.
Voilà. Où les parents ont contesté la décision du médecin et des médecins de débrancher leur fille qui était dépendante d'un ventilateur. Donc voilà, ça arrive et ça arrive aujourd'hui de façon sporadique, mais dont on entend parler, alors qu'avant on en entendait peu parler.
Daniel, avant qu'on
retourne. Oui, il y a effectivement avec Vincent Lambert une médiatisation de ces cas parce que la presse en est informée, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il faut quand même souligner le caractère très exceptionnel de Vincent Lambert. Effectivement, cette famille, c'est une famille recomposée, une famille avec des liens qui s'étaient distendus. Vincent Lambert n'avait plus trop de rapport avec sa mère et en fait, c'est elle qui a pris un petit peu en prise dans cette histoire. Il y a eu un moment, une erreur du médecin, il faut le dire, le premier médecin qui avait décidé l'arrêt des traitements en accord avec les épouse, mais qui n'avait pas suffisamment informé la mère. Donc c'est l'argument qui a été utilisé par le tribunal administratif pour demander ensuite à ce que ces traitements soient remis en place. Enfin, il y a eu une série d'événements qui rendent ce caractère, cette affaire Lambert, très exceptionnelle. Comme le disait Véronique Fournier, dans la très grande majorité des cas, il y a consensus. Alors, ça arrive pas tout de suite, forcément. Ouais. Et puis, c'est sans doute sain que les gens, à un moment, ne soient pas d'accord, demandent des explications, demandent des éclaircissements, des précisions. C'est sûrement très sain, mais effectivement, dans la grande majorité des cas, à un moment, comme l'exprimait Aude en début d'émission, il y a consensus et la procédure, qui est une décision médicale, peut aller à son terme.
Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. Allez-y Christophe. Vous nous entendez ou pas?
Je suis André, alors je ne sais pas si c'est...
Ah, vous êtes André. Écoutez André, allez-y, bonsoir. Je vous en prie, puisque vous êtes là, on vous écoute.
Oui, voilà. J'ai travaillé une douzaine d'années en neurochirurgie auprès de gens dans le coma, en sortie de coma, et également une trentaine d'années en service longue durée en gériatrie, à l'Institut des hôpitaux de Paris. Et ce que je voulais dire, c'est que quand on a des débats autour du sujet sur le droit de mourir dans la dignité, je pense qu'on ne devrait pas le dissocier de la question de quelle qualité de vie propose aussi en fin de vie notre société aujourd'hui. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, voit les conditions de vie réservées aux personnes accueillies dans les EHPAD aujourd'hui, on en parle souvent dans l'actualité, la plupart des gens disent « mais moi je préfère qu'on m'achève, pour parler crûment, avant d'aller en EHPAD ». Mais c'est pas uniquement la question, elle ne se la pose pas à la personne au regard de son état de santé qu'elle aura, mais au regard des conditions de vie, de la qualité de vie. Et je pense notamment à la question de l'environnement non pas que médical, de l'accès aux loisirs, de la vie culturelle. Je pense à Jean-Dominique Bobby qui a pu continuer à écrire, par exemple, alors qu'il a été atteint de Hodgkin syndrome. Et donc, cette question donc d'accès aux loisirs, d'accès à la vie culturelle, par toutes sortes de moyens, de pouvoir écouter de la musique, même si on ne peut plus bouger un doigt. Et donc, cette qualité d'environnement relationnel, de rester un être qui existe. Charles Gardou, l'anthropologue Charles Gardou, disait « Soigné par tous, ils peuvent mourir de n'exister pour personne. » Soigné par tous, ils peuvent mourir de n'exister pour personne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé en France, je ne vais pas être trop long, juste là pour dire qu'on a créé en France aussi un collectif national « Droit culturel et vivre ensemble, AGAPE », pour justement poser le problème des politiques culturelles par rapport aux EHPAD, par rapport aux gens qui sont dans une situation d'handicap extrême.
Merci beaucoup André. Alors je ne voudrais pas qu'on fasse trop de parallèles non plus entre la situation dans les EHPAD et la situation des gens qui sont dans un état de handicap extrême, c'est le terme que André a utilisé. Toute la difficulté, moi ce que j'entends Véronique Fournier, dans l'histoire de Vincent Lambert mais dans d'autres, c'est à quel moment on sait qu'il y a cette conscience-là de toute façon. Moi je me souviens aussi de l'affaire de Dominique Bobby qui avait une pleine conscience et qui pouvait répondre, ce qui était pas le cas, ce qui n'est pas le cas d'un monsieur comme Vincent Lambert. On est d'accord avec ça ou pas?
Ah oui, je pense que la situation de Vincent Lambert n'a rien à voir avec celle de Dominique Bobby, ça c'est sûr. Même si la science ne peut pas affirmer des choses totalement définitives, peut-être que nous n'avons pas accès à une certaine part de conscience qui resterait chez Vincent Lambert et très lointaine, mais à laquelle on ne sait pas accéder au jour d'aujourd'hui, alors que Dominique Bobby, clairement, était avec toute sa conscience dans son Hodgkin syndrome.
Le sens de ma question, c'est aussi celui de... Je l'ai perdu, la question qui vient de sur l'appli de France Inter, peu importe, quelqu'un qui nous disait que ce sont des chiffres qui ont été cités à plusieurs reprises, il y aurait entre 1500 et 1700 personnes qui sont en France dans le même état que Vincent Lambert. Est-ce que c'est un chiffre que vous confirmez? Et est-ce qu'on peut dire qu'ils sont tous dans cet état-là, ou est-ce qu'il y a au fond 1500 ou 1700 cas différents de cas aussi relationnels comme celui de Vincent Lambert?
Je crois que c'est une catégorie qui est quand même extrêmement proche, hein, les états qu'on appelle minimal conscient ou les états complètement neurovégétatifs. Et oui, les chiffres que vous indiquez sont à peu près ceux qu'on connaît, c'est-à-dire 1500 patients à peu près en France sont dans cet état-là aujourd'hui.
Christophe, allez, c'est à vous maintenant. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On vous écoute.
Moi, je me posais la question depuis quand même pas mal d'années, puisque je l'ai vécu personnellement quand j'ai eu un accident. C'est pourquoi il a fait pas l'objet d'une hospitalisation à domicile. parce que bon, ça immobilise un lit d'hôpital pendant des années et des années. Peut-être qu'il serait mieux en famille, du côté de la famille qui soutienne son existence. Et voilà, pourquoi il ne fait pas l'objet d'une hospitalisation à domicile, quoi.
Merci beaucoup, Christophe. Il y a beaucoup de questions autour de ça. Est-ce qu'il est possible d'avoir à domicile un patient comme Vincent Lambert ou pas?
Nous avons connu plusieurs situations de ce genre au centre d'éthique clinique de l'assistance publique, de familles qui s'étaient mobilisées pour garder chez elles des patients en état neurovégétatif pendant des dizaines d'années. Hein. Ouais. Une mère pendant 15 ans, une autre pendant 20 ans. Donc oui, absolument c'est possible, mais il faut à ce moment-là que tout le monde soit d'accord. Et je vous rappelle que Vincent Lambert, si la partie de sa famille qui avait envie que sa vie se poursuive l'avait prise en charge, probablement qu'il aurait été inaccessible pour son épouse, qui est quand même un sujet délicat à trancher. Mais lorsque les familles se mobilisent, oui, elles peuvent garder ces patients à domicile. C'est très éprouvant, c'est une charge H24, une charge H24 pendant des années. Et ça, comment vous dire, réorganise la vie de famille autour. C'est-à-dire qu'il faut le savoir que, voilà, toute la vie de famille est évidemment connotée par cette prise en charge-là, qui est lourde, non seulement pour, en général, la femme qui est la plus impliquée, qui est souvent une mère ou une épouse, mais qui est lourde, après, pour tout le monde, pour tous les autres enfants notamment.
Daniel.
Oui, je voulais revenir sur les cas de ces 1500-1700 personnes qu'on dit cérébro-lésées, parce que il y a eu un communiqué aujourd'hui d'une association qui s'inquiétait que l'arrêt des traitements sur Vincent Lambert puisse
faire une sorte de jurisprudence.
Si la question est universelle, la réponse est particulière. À chaque fois, il s'agit de cas particuliers. Et là, on a bien vu dans le cas de Vincent Lambert, c'est parce que l'équipe soignante a vu des moments qu'elle pouvait interpréter, des mouvements qu'elle pouvait interpréter comme de la souffrance, des mouvements réfractaires, qu'une réflexion s'est engagée ensuite pour dire, est-ce qu'il faut arrêter un moment? Mais si la famille ne demande pas, si l'équipe ne le discute pas, si à chaque fois, il y a une interrogation sur une personne. Donc, il est bien évident qu'il n'y a pas d'inquiétude sur quelque chose qui serait comme ça, exposé à tous les cas, ce n'est évidemment pas la situation.
Il ne peut pas y avoir de jurisprudence,
absolument
Vincent
pas.
Lambert,
non.
On est bien d'accord avec ça. Beaucoup de questions autour d'un thème qu'on va aborder maintenant, avec Sophia d'abord et puis Pierre après. Bonsoir Sophia.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je me posais une question simple, c'est est-ce que Vincent Lambert a manifesté à un moment donné ou à un autre, et d'une façon ou d'une autre, son souhait en fait de poursuivre ou d'arrêter les soins?
Et merci Sophia pour votre question. Je vais enchaîner sciemment et je vais le faire avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
On merci vous écoute, allez-y.
Appel. Oui, ben, ma question va tout à fait dans ce sens-là. Est-ce que c'est pas opportun au regard de cette affaire que de se poser la question d'une prévention? C'est-à-dire que toute personne majeure, du moins, puisse prendre des dispositions de façon anticipée, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une telle tragédie, d'un accident, et ça éviterait quand même des déchirements familiaux, sachant effectivement que la personne ne se serait prononcée de son vivant.
Merci à vous Pierre, ce qui nous emmène à votre question préférée, parce qu'on en a beaucoup parlé ensemble et dans des téléphones sonnes précédents, Daniel Messager. J'ajoute cette question de Marc sur l'appli de France Inter: que faut-il faire pour signaler que je ne veux absolument pas être réanimé en cas d'état grave, encore moins maintenu dans un état végétatif? Ma femme et les enfants le savent, mais il semble que ça n'a pas suffi pour Vincent Lambert. J'en ai une subsidiaire qui dit: pourquoi les directives anticipées, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ne peuvent-ils pas être stockées sur la carte vitale? Véronique Fournier, deux choses. D'abord, un, si j'ai fait mes directives anticipées, si j'ai écrit quelque part que je ne souhaite pas être ranimé dans telle et telle condition, est-ce qu'on est sûr que le médecin le verra? Et comment ça se passe dans ces moments-là?
Alors, si vous avez écrit vos directives anticipées,
elles sont dans mon portefeuille. Est-ce que quelqu'un la verra?
Elles sont dans votre portefeuille. Je pense vraiment que le médecin la verra.
D'accord.
Voilà. Alors après, il peut ou pas en tenir compte. Mais théoriquement, la loi lui impose d'en tenir compte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malheureusement, ça ne suffit pas. Parce que si vos proches s'opposent à ce que vos directives anticipées soient suivies, eh bien, ça sera difficile pour le médecin de les suivre. Il dira, écoutez, c'est sa volonté qui compte. Et moi, sa volonté, elle est écrite là. Et donc, je la lis comme cela. Mais c'est toujours compliqué d'écrire précisément sa volonté. Et on ne sait jamais si les directives anticipées s'appliquent exactement à la situation dans laquelle vous serez. Si vous écrivez en général ce qu'on écrit dans des directives anticipées, c'est-à-dire « je ne veux pas faire l'objet d'acharnement thérapeutique ou d'obstination déraisonnable », la question c'est de savoir est-ce que dans la situation de Vincent Lambert, on est en situation d'obstination déraisonnable. Et c'est bien là qu'est le problème. Lui a dit « je ne voudrais pas d'obstination déraisonnable », mais ses parents contestent qu'il soit en situation d'obstination déraisonnable, comme beaucoup d'associations de traumatisés crâniens ou d'états neurovégétatifs, qui disent « non, ce sont des vies de personnes grandement handicapées, nous ne sommes pas dans l'obstination déraisonnable ». Donc voilà, les directives anticipées, c'est très bien, il faut absolument les promouvoir, et il faut réfléchir en famille, il faut dire autour de soi ce qu'on souhaite, mais si par hasard, il y a deux parties de la famille qui ne s'entendent pas et qui lisent vos directives anticipées de façon différente et qui s'opposent aux décisions médicales, eh bien ça devient très compliqué pour les médecins de décider.
Ben oui, Daniel. C'est du coup un peu compliqué parce que les personnes s'interrogent en disant « Mais alors, on me dit que la solution, c'est les directives anticipées. Si je ce papier, il est trouvé sur moi, tout va bien se passer. » Et là, vous êtes en train de nous dire « Finalement, ça va pas si bien se passer que ça. » C'est quoi la solution? Alors, c'est une personne de confiance. Et comment on est sûr que c'est la bonne personne de confiance qui va s'exprimer auprès du médecin, dans ce cas, en disant « Mais c'est moi la bonne personne de confiance. » Qui pourrait être contesté par la famille, alors? Parce que c'est pas forcément quelqu'un de la famille qui pourrait être personne de confiance.
Est-ce que j'ai intérêt à mettre une personne de confiance sur ma directive anticipée, avec un numéro de téléphone et quelqu'un qu'on peut appeler?
Ceinture et bretelle?
Oui, c'est exactement ça, ceinture et bretelle, absolument.
Alors, écoutez, une fois de plus, je crois qu'il faut vraiment vous dire que l'affaire de Vincent Lambert n'a pas de chance de se répéter énormément. Voilà, il y a des cas de conflits familiaux et des cas qui ne veulent pas se résoudre. Mais théoriquement, et peut-être que Daniel a raison, peut-être que Vincent Lambert a joué de malchance, parce que probablement si on s'y était pris à peu près tranquillement depuis le début et que vraiment du temps avait été laissé à la discussion commune, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais j'ai tendance à penser que malheureusement, même avec ceinture et bretelles, directive anticipée et personne de confiance, si vos proches autour de vous ne sont pas d'accord entre eux et ne sont pas d'accord pour finalement vous faire prévaloir vous d'abord, plutôt que eux, eh bien, il y a des chances que ça bloque. C'est ça qu'il faut retenir de l'affaire Vincent Lambert. Et il faut peut-être, effectivement, en famille, dire, écoutez, moi, c'est ça qui m'importe, et même si vous vous entendez pas, mes enfants chéris, eh bien, je vous signale que c'est ça que je veux, c'est ça que je vous demande de porter pour moi, au bout du compte.
Cette question de Daniel par mail, qui demande quels sont les membres de la famille qui peuvent s'opposer à une décision médicale. Est-ce que ce sont tous les membres, les cousins, les nièces, ou est-ce que ce sont seulement les parents? Et même là, puisqu'on en revient au cas précis de Vincent Lambert, pourquoi les parents ont la main sur la femme et inversement? Est-ce que c'est en fonction d'eux? Est-ce qu'il existe? J'imagine pas qu'il peut y avoir une hiérarchie, je l'aime plus que vous, donc, ou que toi. Donc, du coup, comment ça marche dans ces cas-là? La famille, ça veut dire quoi? Ça va jusqu'où?
Eh bien, il y a des pays dans lesquels les choses sont encore plus formalisées que chez nous.
Ouais, et qui c'est disent, la femme d'abord.
Numéro 1, c'est la femme. Ouais. Numéro 2, c'est les enfants. Numéro 3, c'est les parents, etc. Nous n'avons pas été jusqu'à ce degré de formalisme. Peut-être faut-il y aller, mais je ne suis pas sûre que ça résoudrait vraiment les choses. C'est un peu, vous savez, comme dans les prélèvements d'organes. Vous pouvez avoir écrit explicitement que vous étiez donneur d'organes, si au moment où les choses se passent, vos très proches refusent que vous soyez prélevé, c'est très difficile pour les médecins de passer outre. Et même si, dans l'affaire Vincent Lambert, les choses ont été assez claires assez rapidement, la femme de Vincent Lambert a demandé à être reconnue comme sa personne de confiance et comme sa tutrice, elle a été reconnue comme cela par la justice. Il n'empêche, c'est quand même extrêmement compliqué pour un médecin de faire contre la mère. Voilà, c'est et vous voyez bien ce qui se passe là actuellement. Ça continue de se passer difficilement parce que la mère de Vincent Lambert n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer.
Quant à l'idée, alors on a bien compris ce que vous disiez sur les directives anticipées, c'est moins simple que ça en a l'air. Si elles étaient écrites sur la carte vitale, par exemple, donc si ça venait sur un écran d'ordinateur de médecin, est-ce que ça aurait plus de poids, plus de sens que un papier plié en quatre ou pas dans un portefeuille?
Alors honnêtement, je ne crois pas que ce soit le fait que ce soit un papier plié en quatre dans un portefeuille plutôt qu'une carte informatique qui joue. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de les mettre sur la carte vitale, mais l'idée est de pouvoir les mettre sur le dossier médical personnalisé, le DMP, qui est en train théoriquement...
Qu'on est encore très rare à avoir pour l'instant.
Qu'on est très rare à avoir, mais qui est en train de s'installer dans le paysage. Simplement, les directives anticipées, quand vous les regardez de près, quand vous regardez le modèle qui est proposé par le ministère de la Santé, c'est au moins 10 pages. Et donc, ça commence à faire lourd dans un dossier médical personnalisé. Et si vous écrivez uniquement « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique », une fois de plus, c'est sujet à interprétation. Dans quelle situation vous allez être en acharnement thérapeutique ? Donc, une fois de plus, c'est un outil qui est fait pour réfléchir, pour discuter. Il est fait pour engager le dialogue et il est fait pour essayer d'aider à une co-décision. Mais il n'est pas... Voilà, il ne peut pas avoir plus de poids que ça, malheureusement.
Il y a cette question de Élise, qui est infirmière à Bordeaux, qui demande au fond si la loi Leonetti suffit telle qu'elle est. Est-ce que la modifier engendrerait des dérives dans tous les sens ? Elle estime qu'il faut juste qu'elle soit plus et mieux appliquée. Il y a, dit-elle, un manque de moyens criant et un manque d'application de la loi, surtout à domicile. Véronique Fournier, vous pensez que la loi Leonetti suffit, mais qu'elle est mal appliquée ?
Alors d'abord, nous sommes sous le coup de la loi Claes-Leonetti, maintenant, et non plus de la loi Sal-Leonetti. Et je ne sais pas si on peut dire que la loi est mal appliquée. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle est encore insuffisamment connue, c'est sûr. Et vous savez, les gens ne s'intéressent pas forcément à toutes les lois qui existent. Et donc, ils s'intéressent à ces lois quand ils sont en situation eux-mêmes de difficulté, de savoir ce qu'il faut faire et quels sont leurs droits. Donc oui, la loi reste encore méconnue. Nous venons de faire un sondage BVA qui vient de sortir, qui prouve que 60% des Français de plus de 50 ans connaissent la loi, que 40% savent qu'elle propose des directives anticipées et que donc ils peuvent en écrire. Malheureusement, il n'y a que 13% des Français qui ont écrit des directives anticipées, des Français de plus de 50 ans. Cela monte à 21% chez les patients de plus de 75 ans. Ça reste peu, mais à mon avis, ça ne montera pas énormément plus, parce que dans les pays qui ont légiféré sur ce genre de choses depuis 20 ou 30 ans, c'est à peu près les mêmes chiffres. Ce n'est pas parce qu'on est au courant du dispositif qu'on a envie d'en écrire et qu'on sait quoi écrire.
Daniel.
Mais justement, dans l'enquête que vous citiez, vous avez organisé justement un colloque aujourd'hui, il y avait un focus sur les EHPAD et sur est-ce qu'il faut, à l'entrée dans un EHPAD, demander à la personne de remplir ses directives anticipées. Ces personnes sont plus proches de la fin de vie que les autres. Et donc, est-ce que ça doit devenir systématique ? Est-ce que ça doit faire partie des conditions d'entrée dans un EHPAD, par exemple ? Est-ce qu'il faut, à ce point, régulariser cela ?
Alors, non, non et non. Nous pensons qu'il faut surtout pas formaliser les choses de façon aussi claire. Nous pensons, et tout le monde l'a dit aujourd'hui à ce colloque où il y avait 200 personnes et qui étaient des gens qui travaillaient en EHPAD, et ils ont dit que c'était horriblement violent pour les résidents d'être institutionnalisés d'une part, ce qui déjà est brutal pour eux.
Puisque vous allez mourir, au fait, à quel moment et comment, c'est absolument terrible.
Exactement. Donc, non. Nous pensons qu'il faut surtout pas que ce soit une obligation. Les directives anticipées, ça reste un droit. Et non pas ni un devoir, ni une obligation. Il faut laisser les gens libres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on pense que c'est vraiment pas lors de l'entrée qu'il faut faire ça. En revanche, ce qu'on pense, c'est qu'il faut probablement systématiser des réunions d'information dans les EHPAD régulières, une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois, autour d'un événement convivial pour parler de cela et faire savoir que ça existe.
Est-ce que ça existe lorsque... Je sais que les Américains, par exemple, doivent signer ce qu'ils appellent le DNR, Do Not Resuscitate, lorsqu'ils vont se faire opérer même. Ça existe chez nous, ça ? Est-ce qu'on nous pose cette question-là dès lors qu'on va passer sur un billard ou pas du tout ?
Pas pour l'instant, mais ça risque de venir.
Et ça, ce serait une... ça vous paraît être une bonne idée ? Ça vous paraît être indispensable même ou pas ?
Non, ça ne me paraît pas indispensable parce que c'est pareil. On ne sait pas ce qui va se passer exactement dans l'accident anesthésique. Les directives anticipées peuvent très bien contenir une demande de non-résuscitation si on a un arrêt cardiaque.
Allez, une volée de questions qui prouve encore une fois combien cette affaire a secoué beaucoup de gens et ce qu'ils en entendent aussi. On a Jean qui nous demande qu'est-ce que ça veut dire exactement état végétatif ? Est-ce que les organes vitaux comme le cœur ou le cerveau fonctionnent sans aide ?
Oui, les organes vitaux fonctionnent absolument sans aide dans les états neurovégétatifs. Le végétatif, ça veut dire justement que toutes les fonctions automatiques du corps continuent toutes seules.
Comment peut-on savoir qu'il ne va pas souffrir de la faim ou de la soif avant de mourir ? Comment on le sait ?
Parce qu'en fait, on n'a pas la sensation de soif ni de faim quand on arrête de boire ou de manger. Ce sont deux choses déconnectées. Par exemple, on donne souvent l'exemple des grandes anorexiques. Les grandes anorexiques, elles n'ont pas faim. Ou l'exemple des personnes très âgées. Comme vous le savez, les personnes très âgées, très souvent, elles oublient de boire. Donc, elles n'ont pas la sensation de soif, même si elles ne boivent pas. Donc, ce sont deux choses qui sont déconnectées. Mais symboliquement, ça fait de l'effet aux gens qu'on arrête l'alimentation et l'hydratation. Et cette valeur symbolique n'est pas négligeable.
Énormément de questions par mail autour de ce sujet-là. Là, c'est la question d'Anna sur l'appli de France Inter que je vais vous donner. Pouvons-nous avoir une idée du coût annuel concernant les soins apportés à Vincent Lambert? Imaginons qu'il vive jusqu'à 95 ans et si la partie de la famille qui tient à le garder s'acquittait de ces frais-là. La question de l'argent, elle revient tout le temps. Et c'est un peu terrible à poser comme ça, mais allons-y. Ça coûte combien, en fait, une journée, je ne sais pas, d'un homme comme Vincent Lambert?
Écoutez, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est vrai que ça a un coût pour la société et ça dépend de la structure dans laquelle il est. Vincent Lambert a été dans une structure sanitaire jusqu'à maintenant et dans une structure sanitaire, le coût est assumé par la sécurité sociale. Dans une structure médico-sociale, comme un EHPAD, les coûts sont assumés partiellement uniquement par la sécurité sociale. Ce sont les coûts de santé, les coûts de soins qui sont assumés par la sécurité sociale, mais les coûts hôteliers sont assumés par les familles. Donc ce sont deux situations différentes.
Est-ce que c'est une question éthique, cette question de l'argent justement? Parce qu'on sait que, par exemple, des journées en réanimation coûtent très cher. Il y a des personnes qui sont réanimées ensuite, qui vont être en fin de vie et ce n'était pas forcément nécessaire de les réanimer. Est-ce que ça fait un débat éthique que de parler de l'argent ou est-ce que c'est encore tabou?
Alors, moi je pense que c'est une vraie question éthique parce que lorsqu'on dépense de l'argent pour l'un, on en a moins pour les autres. Et que donc, c'est vraiment un choix que de savoir comment on utilise son argent. Tant qu'on en a suffisamment, et plus que suffisamment pour tout le monde, il n'y a aucun problème. Et en France, nous avons eu la chance jusqu'à maintenant de ne jamais parler de rationnement de soins au lit du patient. Mais c'est un sujet qui est posé dans ces termes-là, dans énormément de pays, dans tous les pays en voie de développement par exemple, la question se pose journellement, de savoir pour une famille qui paye tous les soins, si elle va dépenser tout son argent pour maintenir en vie un de ses proches qui est accidenté. Donc, la question fait entièrement partie de la réflexion éthique. Chez nous, moins qu'ailleurs, pour les raisons que j'indique, parce que pour l'instant, on a les moyens. Mais oui, la question peut se poser.
Bonsoir Paul.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Paul. Vous êtes le dernier, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je voulais vous apporter mon témoignage concernant ma maman qui est décédée il y a peu, au mois de novembre. Elle a souffert d'un glioblastome, une tumeur du cerveau très agressive. Et moi je vais prendre le problème inverse un petit peu, si vous voulez, voulait en finir en quelque sorte, parce qu'elle voyait son état se dégrader de plus en plus, et vraiment de manière très prononcée. C'est une femme très active. Elle était immobilisée et elle disait elle-même, écoutez, moi je veux finir avec tout ça, et on lui en a pas donné vraiment la possibilité. On a arrêté les traitements qui ont empêché la tumeur pendant longtemps de se développer, mais une fois que ça s'est terminé, elle a mis une petite dizaine de jours, si vous voulez, à sombrer dans un coma, à se réveiller. On disait, bah, écoutez, elle souffrira plus, votre maman, ça y est, elle est endormie. Puis finalement, deux jours après, elle se réveillait, elle était dans un état second, mais on lui a pas permis, si vous voulez, d'être soulagée immédiatement, en fait, alors qu'elle voulait partir. Voilà. Et je voulais apporter ce témoignage-là qui me semblait important.
Merci voilà. Paul pour votre témoignage, Véronique Fournier.
Oui, alors malheureusement, je crois que ces situations arrivent encore trop souvent. Votre maman aurait probablement pu bénéficier, si elle l'avait demandé, de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui est justement le nouveau droit ouvert par la loi Claeys-Leonetti. Mais personne ne sait très bien que ce nouveau droit existe. Et donc, personne ne le demande et les équipes ne se sentent pas obligées de le proposer.
Est-ce que son fils pouvait le demander pour elle?
Son fils aurait pu le demander pour elle. En tout cas, les médecins auraient été obligés à ce moment-là de se prononcer dessus. Mais la loi dit aussi qu'il faut que ce soit le patient qui le demande et non pas l'équipe et non pas la famille. Mais le fils aurait pu poser la question et ensuite de ça, l'équipe aurait réagi.
Mais pourquoi l'équipe dans ces cas-là peut pas, pourquoi ça peut pas se passer dans l'autre sens quand même? Pourquoi c'est pas l'équipe qui peut suggérer ça? On sait que la mère de Paul va mourir, elle va mourir dans une dizaine de jours, ça c'est clair, mais peut-être dans deux jours, peut-être dans trois jours, peut-être dans dix, et il y a ce moment qui est très pénible. Pourquoi c'est pas l'équipe médicale qui vient vers la famille à ce moment-là en disant voilà ce qu'on peut faire?
Parce que la sédation profonde et continue jusqu'au décès est encore quelque chose d'assez nouveau. Et qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont craintives vis-à-vis de cette pratique et qui estiment qu'elles flirtent un peu avec l'euthanasie et qui donc n'ont pas envie de la proposer. Donc c'est un droit que le législateur a donné aux patients, mais l'équipe, finalement, est assez réticente, très souvent.
Mais du coup, je reviens à la question précédente d'un de nos auditeurs qui demandait si la loi Léonie Ticlès était suffisante. Au fond, je vous entends, je ne sais pas si elle l'est ou pas, mais elle mérite en tout cas que, y compris dans les hôpitaux, on en reparle, et y compris aux soignants, et qu'on les rassure, non, sur le fait que non, dans ce genre de cas-là, c'est pas une euthanasie pure et simple, non ?
Bien sûr, mais on peut rassurer les soignants, mais s'ils croient l'inverse, c'est difficile de les convaincre. Et sur ces sujets-là, chacun a ses propres convictions.
Et chacun a ses propres convictions, c'est bien ça. Vous vouliez ajouter quelque chose, Daniel?
Non,
vous
voyez, je disais parce que c'est la fin, mais allez-y. Il faut surtout que cette loi soit appliquée et qu'effectivement les équipes soignantes qui, dans un cas comme celui qui vient d'être évoqué, ne proposent pas cette solution, ils n'appliquent pas bien cette loi, je crois qu'il faut le dire.
Et ben ça donnera l'occasion d'y revenir et d'en reparler. Merci beaucoup à tous, en tout cas. Merci pour vos nombreuses questions, merci pour vos témoignages très touchants comme d'habitude et portez-vous bien.